Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'agité du local de ce lundi 8 novembre, nouvelle semaine que je suis très contente en tout cas de reprendre avec vous pour cette émission autour de l'actualité mayonnaise au sens large. On va aller plutôt à la rencontre de scénaristes et de dessinateurs de BD. D'une BD plutôt pour les jeunes, mais qui plaît aussi à leurs parents. Ça s'appelle Lucien, avec différents tomes. On est justement allé à leur rencontre et on les entendra tout à l'heure. On est allé aussi, alors non pas vraiment nous, mais en tout cas on va parler de cette nouvelle chronique du cycle de reportage Pensée locale qui a été réalisé par nos confrères et en l'occurrence notre consoeur de Radio Fidélité Mayenne. Rendez-vous à la Fabrique d'ici à Laval, vous le verrez. L'idée c'est de mettre en valeur l'artisanat local. Ça ce sera plutôt en fin d'émission. Mais d'abord on va faire un point sur l'actualité avec cette rentrée sans masque sur le nez pour les écoliers en Mayenne. Contrairement à 61 autres départements, le masque n'est plus obligatoire depuis ce matin, et ce grâce à un taux d'incidence inférieur à 50 cas pour 100 000 habitants. Il s'établit à 34,8. Seul un TER sur trois circule ce lundi. Peut-être avez-vous déjà été impacté ce matin à cause d'un mouvement de grève au sein de la SNCF. Les lignes les plus touchées sont celles de Nantes, Angers, Le Mans, Nantes-Angers-Laval-Rennes ou Le Mans-Laval. Les syndicats dénoncent un malaise dans la profession à cause d'une dégradation des conditions de travail, ce qui explique ce mouvement de grève. Retour à la normale mercredi pour les urgences de nuit à Laval. Un médecin de la réserve sanitaire est arrivé pour épauler les soignants sur place, mais les urgences de nuit restent fermées encore de nuit, donc entre 18h30 et 8h30 du matin. Il faut continuer à appeler le 15 ou le 116-117 avant de vous rendre sur place. Pour soutenir les urgences, un appel a été lancé sur Twitter pour aller déposer d'ailleurs un petit mot pour les soignants ce mercredi entre 18h30 et 19h30 au centre hospitalier de Laval. 140 foyers privés d'électricité à Saint-Aignan-de-Coutrain, près de Pré-en-Paille. L'incendie s'est déclaré dans un transformateur électrique situé au lieu-dit La Hérissière hier soir. Les pompiers ont vite maîtrisé le feu, mais le courant a été coupé par précaution pendant 2 heures dans tout le village. Mais tout a été rétabli hier, donc à 23h. À la page sport, le Stade Lavallois renoue enfin avec la victoire à domicile. Les Tangos se sont imposés 2-0 vendredi soir contre Saint-Brieuc, ce qui leur permet de remonter au classement et d'être donc 5e de national. Et puis en voile, départ hier midi de la Transat Jacques Vabre direction la Martinique, avec notamment le trimaran mayennais actuel. Les deux skippers Yves Leblévesque et Anthony Marchand sont en 3e position. Chez les IMOCA, le navigateur originaire de Château-Gontier Fabrice Amédéo occupe avec Loïs Béréard la 14e position. Pour le moment, on va parler de cette BD incroyable, Lucien et les mystérieux phénomènes. Le 3e tome est sorti il y a quelques temps et ses créateurs, Delphine Lelay et Alexis Aurelou, étaient samedi à la médiathèque de Cran pour en parler, pour le présenter, mais aussi pour parler tout simplement de leur métier. On va les entendre juste après ça. Ça s'appelle Heidi Doudid de Albe.
See what's going on when we take that ride. Looking forward to turn around. I know I crossed the line, but it would be like, say it's no one's fault but mine. Can't change the things I did. We were face to face when we should have been side by side. It hurts when you're creeping in, saying things like this will never work. What do people understand?
my broken Valentine when I throw the dice, wait for them to land.
Let's go straight to the end.
Things I did, we were face to face when we should have been side by side.
We play the same games every day. We started this anyway. I did, you did. It keeps coming back all the time. How are we gonna get inside? We're so close that we can't collide. We play the same games every day. We started this anyway. I did, you did. It keeps coming back all the time. How are we gonna get inside? We're gonna make it, we just have to try.
C'était I did, you did, évidemment, je me suis fait avoir par, par ces espaces qui n'étaient plus là. I did, you did, Albe, c'est ce que vous venez d'écouter sur l'autre radio dans la JT du local, votre quotidienne d'information locale. Et puis, dans votre bibliothèque, peut-être que vous avez leur livre, en tout cas, vous ou vos enfants. Lucien et les mystérieux phénomènes, c'est une série BD en 3 tomes, pour le moment en tout cas, signée par les Mayennais Delphine Lelay et Alexis Aurélie. Une exposition leur a été dédiée pendant plusieurs semaines à la médiathèque de Cran et pour la clôturer en beauté, samedi, les scénaristes et dessinateurs sont venus à la rencontre de leurs lecteurs. L'occasion de présenter leur 3e et dernier tome intitulé « Sorcières », mais aussi d'expliquer tout simplement ce qui guide leur travail.
Alors Delphine Lelay, je suis scénariste de bande dessinée, je travaille sur la série « Lucien et les mystérieux phénomènes ». Voilà, et donc là, on est à la médiathèque de Cran, dans le cadre d'une exposition qui se termine ce week-end.
Je suis Alexis Aurélou, je suis dessinateur de BD, je travaille avec Delphine Lelay. Donc là, on est à la médiathèque de Cran pour une rencontre et dédicace.
Autour justement de ce 3e tome des aventures de Lucien, qui s'appelle Sorcière, je crois. Est-ce que vous pouvez, pour ceux qui ne l'auraient pas lu ou qui ne le connaîtraient pas, raconter un petit peu l'histoire?
Alors, sans tout dévoiler, parce qu'il y a toujours une partie de mystère, Lucien étant en voyage scolaire avec sa classe et arrive dans un manoir pour découvrir la faune, la flore, comme ça se fait souvent. Et sauf que ce manoir, la propriétaire de ce manoir serait une sorcière qui prendrait l'apparence d'une jeune fille et qui rôderait la nuit dans les dortoirs du lieu. Voilà. Donc les garçons et les filles vont mener l'enquête pour découvrir la sorcière, mais avec deux façons de faire très différentes. Les garçons vont faire constituer une bande avec leur logique de garçon pour chasser la sorcière, et puis les filles de leur côté vont aussi faire une bande pour aller entre filles essayer de découvrir qui est la sorcière. Voilà.
L'idée, c'était aussi ça, de peut-être montrer les différences filles-garçons qu'il peut y avoir ou pas. Quelle était l'idée, en tout cas, de cet album-là?
C'était ça, effectivement, c'est de parler... c'est un peu le concept de cette série-là. Donc chaque tome se lit indépendamment. Et à chaque fois, c'est une aventure qui sert un peu de prétexte aussi à raconter quelque chose, un sujet de société, quoi. Alors qu'on voit ou pas, c'est pas très grave si les enfants passent à côté du sujet, mais si disons que c'est une aventure qui peut permettre de se poser des questions sur la société. Voilà. Et là, effectivement, sur Sorcières, c'était les stéréotypes de genre, le rapport garçon-fille. Voilà.
Les 3 tomes sont plutôt des jeunesses. C'était pas forcément le cas de ce que vous faisiez avant. Comment est-ce que vous vous êtes orienté vers cette voie ?
Eh bien, effectivement, avant, on travaillait plutôt pour les adultes. On a fait plutôt des livres autour de sujets aussi de société, mais traités de façon historique ou documentaire. Et puis, à un moment, on s'est dit que finalement, peut-être les lecteurs qu'on concernait étaient déjà convaincus de ce qu'on racontait et même peut-être arrivaient beaucoup plus loin que nous dans leur réflexion. Et donc on s'est dit bah c'est pas ce qu'on cherchait à faire, on cherchait à sensibiliser plutôt et à semer des petites graines de conscience comme ça. Et du coup bah, c'est comme ça qu'on en est venu à travailler pour la jeunesse. On s'est dit bah finalement il faut essayer de sensibiliser les plus jeunes pour que les questions se posent le plus tôt possible quoi. Voilà.
Comment est-ce que vous travaillez tous les deux justement ? Est-ce qu'on commence vraiment par le scénario ou par le dessin ?
Pour la BD, on travaille toujours avec le scénario au départ, quoi. Enfin, bon, après, on vit ensemble et donc on travaille ensemble. Donc on est toujours en discussion de projets, mais dès qu'on parle de projet, c'est le scénario au début avec la construction des personnages. Et parce que les personnages vont amener vraiment l'histoire, en fait, un déroulé, le rythme et tout de l'album. Et une fois qu'on a l'idée du scénario, moi j'ai commencé à dessiner les personnages aussi pour leur donner une apparence qui va leur donner un caractère aussi. Et après, par rapport à ça, Delphine, elle part dans son coin, elle écrit tout. Et ensuite, on storyboard. Donc je vais découper l'album pour en faire un 82 pages et une fois qu'on est d'accord sur le rythme, je me mets à dessiner pour le coup. Enfin, donc voilà.
Se mettre d'accord justement sur le rythme, ça se fait assez facilement ou pas ?
Oui, carrément. On est assez complémentaires sur notre façon de travailler, même sur notre façon de voir les choses en fait en général. Après, des fois, en cours d'album, on se rend compte qu'il y a des choses qui marchent plus ou moins bien et tout, donc on en discute, on revoit, mais c'est complètement amovible, quoi. Enfin, il y a pas de problème du tout dans la réalisation des albums, quoi. Enfin, on s'entend plutôt bien là-dessus. Surtout, en fait.
Ça prend combien de temps, puisque je crois que le premier tome des Aventures de Lucien est paru en 2019, c'est ça ? Là, on en est au troisième, donc ça va assez vite aussi, finalement.
Ouais, alors en fait, par rapport... Alors quand on a eu l'idée du premier tome, il n'y avait pas encore l'idée d'en faire une série, quoi. Elle est arrivée, en fait, à la fin du premier tome, et c'est pour ça qu'il y a une sorte de nom générique, en fait, Lucien et les mystérieux phénomènes. Parce qu'au début, l'album s'appelait L'empreinte de H. Price, en fait, juste le titre, le sous-titre. Et donc après, on a trouvé un titre générique, et donc là, c'est devenu une série, et l'éditeur nous a demandé d'en faire un par an, en fait, qu'il fallait en faire un par an pour qu'il y ait une sorte de rythme de sortie. Mais en fait, ça risque de s'arrêter, ça, parce qu'on vient d'en parler avec l'éditeur. On repousse la sortie du 4 là pour mieux travailler les albums, parce qu'en fait ils se sont rendus compte que c'est pas complètement pris comme une série mais plus comme un boulot d'auteur. En fait, vraiment, chaque album est très différent, on les lit indépendamment et c'est quand même des gros albums, ils font 90 pages, donc c'est pas une série de 45 pages et en plus il y a un réel propos derrière, donc je pense que c'est des albums qui demandent vraiment à être travaillés et pas faire un album et attendre la sortie du prochain. En fait, il faut faire des rencontres, en discuter. Enfin, ça prend le temps. En fait, ça prend peut-être plus le temps que d'autres séries, quoi. Enfin, donc voilà. Donc on s'est mis d'accord il y a 2 jours là. Et donc au début, le tome 4 devait sortir en septembre prochain et en fait il sortira en avril 2023, quoi. Donc voilà.
Il y a déjà une idée en tout cas pour le tome 4, j'imagine.
En fait, il est en cours et on a une idée de tome 5 et peut-être qu'il clôturerait la série. Donc après ça, c'est des pourparlers avec l'éditeur. Mais donc voilà, quoi, c'est... Ouais, ouais.
Est-ce qu'on peut savoir au moins le thème abordé dans le tome 4 ou pas ?
Le thème, ça va être sur les médias, en fait. Voilà, sur qu'est-ce qu'on a le droit de dire, voilà, la déontologie un peu aussi autour de la presse, et voilà. De toute façon, chaque album, les sujets, c'est voilà, c'est pas des sujets non plus très originaux finalement, parce que on en entend beaucoup parler, mais peut-être c'est la façon de les aborder qui permet de se poser des questions, comme on disait tout à l'heure. Après, on veut pas donner de réponses non plus dans les bouquins. Il y a pas de, enfin, on essaie vraiment d'échapper au côté moralisateur. C'est vraiment pas le but. Mais plutôt de s'interroger, quoi, de se dire bah oui, tiens, j'avais pas vu ça comme ça, voilà. Et j'espère que ça marche.
Là, vous venez à la rencontre de votre public. Je sais pas s'il y a souvent d'autres moments de rencontre comme ça. Est-ce que vous en avez forcément déjà, des retours en tout cas de lecteurs, de jeunes lecteurs aussi sur vos albums? Comment est-ce qu'ils réagissent? Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils aiment peut-être moins?
Alors oui, on fait beaucoup de rencontres. Alors, pas énormément tout public, c'est beaucoup de rencontres de scolaires en fait, donc on a plutôt accès, et puis après on rencontre les gens en dédicace, quoi, voilà, ouais, les familles, tout ça. Les retours sont plutôt bons, et alors habituellement ils voient surtout l'aventure leur plaît, et voilà. Et puis mine de rien, ils ont très bien compris aussi le propos, et du coup quand on échange, ils ont vu le truc, mais c'est pas ce qui les intéresse en priorité, quoi, voilà. Les adultes ont aussi un bon retour sur le truc, ils sont souvent surpris d'avoir pris du plaisir aussi à découvrir les albums qu'ils avaient au départ achetés pour les enfants. Finalement, je pense que les parents voient peut-être le propos davantage, les enfants plutôt l'aventure, et puis bon, ça fait des discussions en famille aussi qui sont intéressantes, ou en classe, effectivement, quand l'enseignant choisit de travailler ces sujets-là en classe, quoi.
Ouais, le but, il est vraiment de discuter des albums. Après, c'est vrai que le côté aventure, il est là pour que ça soit moins lourd aussi, et que les enfants, quand ils lisent ça, ils s'amusent, en fait, mais tout avec un propos derrière, en fait. Et donc, au pire, s'ils n'ont pas forcément le propos tout de suite, ils peuvent y revenir plus tard. Ou, justement, s'ils sont accompagnés dans la lecture avec les parents, justement, les parents, il peut y avoir une discussion qui se crée sur la compréhension de l'album, et c'est ça qu'on cherche. Après, à chaque fin d'album, il y a un petit dossier pratique avec des ateliers ou dans le dernier, c'est plus des un peu des jeux autour des stéréotypes et tout, et donc voilà, c'est là aussi pour faire comprendre la thématique de l'album, quoi, enfin, ou pour redonner des petites idées de création. Par exemple, dans le deuxième, c'est vachement sur le milieu de la culture et de créer des animations culturelles, quoi. Enfin, et donc, l'idée, c'est de fabriquer soi-même ses affiches, mais côté do it yourself, avec des tampons, tout ça, pas à la photocopieuse ni à l'impression. Qu'on peut faire ça vraiment chez soi, quoi. Enfin, avec très peu de matériel, quoi. Enfin, voilà. Dès qu'on prévoit l'album, on réfléchit aussi à ce petit livret qui fait 7 pages à la fin, donc dessus, quoi. Ça fait des petites activités sur la thématique de l'album, quoi.
Delphine Lelay et Alexis Aurelou sont donc les créateurs de Lucien et les mystérieux phénomènes, cette BD en série qui compte déjà 3 tomes, mais aussi les organisateurs du festival Rustine à Cran. Et bonne nouvelle, il revient cette année après une annulation l'an passé à cause de la pandémie.
Le festival Rustine, oui, voilà, aura lieu les 26 et 27 février 2022, du coup, si tout se passe bien. Toujours à la salle du Mûrier à Cran, et puis avec un partenariat avec la médiathèque aussi de Cran, qui accueillera des expositions. Voilà, bah ouais, tout est en route là pour l'instant, hein, ouais. Donc la programmation est faite, donc comme d'habitude, des auteurs, de la musique, du tatouage, des ateliers, des rencontres, des créateurs de tout genre, quoi. Voilà, un gros mélange encore une fois. Ça fait du bien, ouais, bah, surtout qu'il y avait, bah, tout était prêt déjà pour 2021, mais on avait dû annuler évidemment, comme beaucoup. Donc là, ouais, on va s'y remettre. En même temps, ça nous a fait une pause aussi. Un par an, c'est aussi beaucoup. On n'est pas très nombreux à organiser ça, donc c'est aussi un challenge à chaque fois. Donc là, ça, c'était une petite pause. On va repartir bien. Et puis le dimanche, il y aura un bal costumé, en fait, une sorte de carnaval, voilà, dans la salle des fêtes.
Avec toujours un même objectif qui guide les deux artistes, hein, rendre l'art justement, et même d'ailleurs les arts, accessibles au plus grand nombre, avec notamment ce festival Rustine, je le rappelle, qui est donc prévu fin février. On va parler de la Fabrique d'ici, une enseigne lavalloise qui regroupe plusieurs créateurs, mais ça, ce sera juste après la pause musicale assurée par Nathalie Dawn avec Please Don't Scream.
But I didn't think much of you back then. And I think you loved me first, 'cause it sure took me a while to figure out that you were kinda special. But now you're old and full of ticks and yell at everybody just for kicks. And I wish that you would just shut up. Why do you scream at me? Do you scream? I don't know why you have to do that, 'cause things don't seem all that bad to me. Oh, I'm begging you, please, baby, please don't scream. Do you remember that old cat who beat you up?
J'allais reprendre un petit peu trop tôt. Vous écoutez toujours l'agité du local sur l'autre radio. Et on va parler tout de suite couture, alimentation, savon ou bougie locale. Et oui, puisque vous pouvez trouver tout ça à la Fabrique d'ici, une enseigne lavalloise portée autour de la production et de la vente locale. Des artisans se sont groupés pour permettre aux acheteurs de retrouver toutes leurs créations sur un même site et donc dans une même boutique en centre-ville. On écoute tout de suite le reportage qui est réalisé, vous le savez, pas forcément par nous, mais en tout cas par les différentes radios associatives des Pays de la Loire. Et aujourd'hui, il s'agit de Radio Fidélité Mayenne, en l'occurrence Isabelle Rupin, qui a rencontré trois de ses artisans.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Cela fait un petit peu plus de 2 ans déjà que des artisans locaux ont mis en commun leur travail et leur créativité, surtout pour permettre aux Mayennais de consommer local. Jessica Lévesque est une des fondatrices de cette association qui gère la boutique La Fabrique d'ici, située rue du Val-de-Mayenne, en plein cœur de Laval. Jessica, expliquez-nous le concept de cette boutique.
La Fabrique d'ici est une boutique pour créer une vitrine en plein cœur de Laval, pour les créateurs locaux qui n'ont pas les moyens d'avoir une vitrine en plein centre-ville, pour montrer leur savoir-faire et surtout de proposer aux clients des créations uniques, modèles uniques et pouvant être aussi personnalisés.
Là, on est vraiment dans le consommer local.
Tout à fait. On arrive à plus de 24 créateurs mayennais, donc je tiens à le préciser, donc vraiment des créations locales.
Qui se base souvent sur des produits locaux.
Oui, tout à fait. On va retrouver le zéro déchet, on va retrouver de la fleur séchée, les tisanes faites par Anaïs qui proviennent de chez elle.
Jessica, si vous êtes là depuis plus de 2 ans, c'est certainement parce que ça marche. Vous ressentez une véritable attente aussi de la part des consommateurs ?
Ah oui, tout à fait. Et puis une fidélité, parce qu'on a quand même vécu les 2 années du Covid là. On a fermé presque 2 mois et demi et les gens en fait sont très fidèles. Ils reviennent et ils veulent du local et ils veulent que ça dure.
Côté prix, on a tendance à se dire que le local c'est plus cher que ce qui est fabriqué en Asie.
Eh bien non. Détrompez-vous. Justement, on peut commencer à un premier petit chouchou, je dirais en tissu, qui va être à 3 euros, avoir des petits bracelets à 10 euros et avoir une lampe où là, on va avoir Charlie qui est notre ferronnier et qui nous fait des lampes à 100, 120 euros, qui reste un prix correct et abordable.
Et avec de la qualité made in Mayenne. Marion, vous fabriquez toutes sortes de choses en tissu, en fait de la maroquinerie, des accessoires de coiffure et pareil avec des produits de récupération aussi.
Alors non, moi je prends du neuf en tissu, mais à l'avenir ce sera peut-être un créneau que je prendrai pour aller vers le zéro déchet au maximum.
Vos tissus, ils viennent d'entreprises mayennaises ou pas spécialement ?
Mes fournisseurs sont en Anjou et ils ont souvent des provenances de manufactures dans l'Europe.
Pensée locale, un enjeu de société.
Alors là, je ne sais pas si vous entendez, mais je suis dans l'atelier de menuiserie de Thibaut Fior, un des artisans de cette boutique La Fabrique d'ici. On va s'éloigner peut-être un petit peu pour que nos auditeurs quand même entendent ce qu'on va dire. Vous êtes ébéniste.
Je vais plus dire menuisier. Je suis plus dans la fabrication de meubles d'art, oui. Mais aussi, je fais des fenêtres, des volets, tout ce qui est agencement intérieur-extérieur qui touche au bois.
Et dans la boutique, on ne va pas trouver de volets ni de fenêtres, mais plus des objets de déco.
Tout à fait, c'est une de mes autres activités. Je fais de la création en bois, métal aussi. J'essaye d'allier plusieurs matériaux. Je fais des miroirs, des lampes, des suspensions lumineuses, des horloges aussi. J'essaye de varier un peu mes créations.
Et alors, votre bois, est-ce qu'il est un petit peu local ?
Tout à fait, moi j'essaye de travailler avec des essences de bois locales. J'essaye de me fournir dans les scieries près de chez nous, l'Archant, Mêlée du Maine. J'utilise très très peu de matières exotiques pour tout ce qui est création artistique, meubles, ameublement, etc. Ça sera que du bois de pays, donc du chêne, du hêtre, du frêne, un peu de châtaignier.
Est-ce que vous travaillez aussi à partir de chutes de bois ?
Oui, tout à fait. Je suis aussi coprésident du collectif Air. L'association, elle, fait du réemploi de matériaux. Donc c'est un peu dans ma veine complètement et toutes mes chutes de voix en général finissent dans mes créations.
Donc rien ne se perd.
Exactement.
Rien ne se perd et tout est local, le plus possible.
Et tout se transforme, c'est ça.
Thibaut Fior, est-ce que vous avez l'impression aussi que les consommateurs sont très friands et de plus en plus de local ?
Oui, on s'en aperçoit, les gens commencent à se rendre compte que consommer local c'est quand même idéal au point de vue éthique. Au point de vue service, d'avoir un interlocuteur qui est à 2 pas de chez vous, c'est toujours intéressant pour discuter du projet. Et puis au niveau de la ressource, quand on a un arbre qui est abattu à 2 km de chez soi et on sait que ça va finir dans son salon et que ça va durer une 50aine d'années, on est fiers de présenter quand même des objets qui sont locaux.
Bien, elle est bien légitime cette fierté de la 20aine d'artisans unis pour proposer leurs créations sur un même lieu, à la Fabrique d'ici, à Laval. C'était un reportage réalisé par Isabelle Rupin de Radio Fidélité Mayenne.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
chronique que vous pouvez retrouver d'ailleurs comme toutes les autres sur notre site l'autreradio.fr. On va reprendre un rythme plus normal en tout cas pour la diffusion de cette chronique. Ce sera donc pas jeudi prochain puisque c'est férié, mais le jeudi suivant, le 18 novembre pour la prochaine chronique Pensée locale. Je vous rappelle, si vous ne l'avez pas vu, que vous pouvez toujours tenter de gagner vos places pour la pièce de théâtre La Tragédie d'Hamlet au Théâtre des Ursulines à Château-Gontier. C'est demain soir à 20h30, un spectacle proposé par la Compagnie des Lumières et des Ombres. Une compagnie portée par Guy-Pierre Coulot. Alors c'est très simple, pour participer, il vous suffit d'aimer la publication, de commenter et de taguer la personne avec qui vous aimeriez bien aller profiter de ce spectacle. Spectacle donc, vous l'avez compris, vu le thème, hein, vu le titre en tout cas, La Tragédie d'Hamlet, qui reprend vraiment ce mythe shakespearien, mais à la source plus moderne, en tout cas plus contemporaine, peut-être plus épurée aussi. Et un tirage au sort sera fait ce soir pour savoir qui aura la chance justement de pouvoir y aller demain soir. C'est la fin de notre émission L'Agité du local pour ce lundi. À suivre à l'antenne à 19h, il y aura Solénoïde comme tous les lundis. La diction, c'est compliqué. On va dire que c'est le retour des vacances, même si j'ai pas eu de vacances. Suivi à 20h de la discothèque de Joël, notre programmateur, qui lui est tombé sous le charme du concert Deep Rivers de Paul Lai Trio au festival Atelier Jazz de Mélès. C'était il y a une semaine. Il vous propose justement de découvrir leur album pendant une heure à partir de 20h ce soir. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.